Je vais partager avec vous un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez prendre, peut-être ouvrir vos Bibles si vous en avez une. Et je vais vous lire du verset 9 à 23. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, c'est Paul qui parle, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ma mère, quelques mois après la mort de mon père, était dévastée par cet événement, bien sûr. Elle nous a raconté quelques fois. Et elle est allée voir un médecin, au mois de février. Un médecin homéopathe, oui. Elle était désespérée, dans la dépression, vous l'imaginez. Et elle a rencontré ce médecin qui s'appelait le docteur Falala, un Corse, auprès duquel elle a trouvé du réconfort. Elle a passé un temps avec lui, en fait, il l'a beaucoup écoutée, m'a-t-elle dit. Elle s'est répandue. Et puis il s'est levé, il l'a amené près de la fenêtre pour contempler un arbre qui était là et qui était sans... qui avait perdu toutes ses feuilles, et puis il lui a dit « Pour le moment, ben, vous êtes comme cet arbre, triste et nu. Mais je suis sûr que vous aussi, dans quelques mois, vous retrouverez vos feuilles. » Et cet homme, en disant ça, il n'a probablement pas estimé l'importance du temps qu'il venait de passer avec cette femme qui raconte cette histoire et qui s'en souvient en tout cas après plus de 40 ans. Et tu t'en souviendras toujours. Et tu l'as vu qu'une fois. Et moi, en tant que médecin, je pense souvent à cet homme, à ce médecin, et je me dis, j'espère que je peux avoir un impact comme ça dans la vie des patients que je rencontre et que je peux leur... qui sont en désespoir et que je peux leur donner un peu de réconfort, mais voilà encore une pensée vaniteuse. Mais bon. Les croyants de l'Ancien Testament, et surtout dans les moments de détresse, appelaient de tous leurs vœux le jour où Dieu serait pour toujours au milieu du peuple. C'était vraiment, quand ils étaient dans le désespoir, on voit ça partout et puis qu'il instaurerait un règne de paix, un règne de justice. Et par exemple, dans le dernier chapitre de Ézéchiel, Ézéchiel finit par cette phrase. Et il disait, dans cette certitude, il disait, il imaginait le nouveau nom donné à Jérusalem et dit, verset 35 du chapitre 48, à partir de ce jour, le nom de la ville sera Le Seigneur est là. Et ça se termine comme ça. Et le prophète Ézéchiel avait été emmené à Babylone dès la première vague de déportation en 597 avant Jésus-Christ. Jérusalem et le temple ont été détruits pendant qu'il était en déportation. Et pour cela, en tant que prophète, il devait se battre sur deux fronts. Et c'est l'objet de son livre. Premièrement, il fallait survivre, que ce peuple survive. Et puis deuxièmement, il fallait maintenir intacte une espérance du retour à Jérusalem. Et ces deux objectifs sont ceux d'Ézéchiel tout au long de son livre. Et alors il finit ce livre en parlant de Jérusalem qui s'appellerait désormais Le Seigneur est là. Et pour les Juifs, cela signifiait la reconstruction du temple, des murs de Jérusalem et un lieu où ils pourraient vivre de nouveau leur religion en paix. Mais personne à cette époque n'aurait pu imaginer jusqu'où irait cette présence de Dieu. Jusqu'à venir homme parmi les hommes. Et c'est l'émerveillement des apôtres dans le Nouveau Testament de Jean qui dit, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, sa présence. Jean chapitre 1. Ou encore, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons dans sa première lettre. Et Paul fait partie de ceux qui relisent inlassablement aussi l'Ancien Testament pour y discerner et découvrir le mystère de ce qu'on appelait l'incarnation, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu dans un corps humain. Pour lui, il est évident que Jésus est celui vers tout converger. Dès l'origine, on l'a lu, tout est concentré dans Jésus-Christ. Pour lui, Jésus-Christ est vraiment et depuis toujours le centre du projet de Dieu pour l'humanité. Et ce projet que Dieu, il dit, avait d'avance arrêté en lui-même, et il le dit dans la lettre aux Éphésiens. Et Dieu a longuement et patiemment préparé son peuple. Et quand les temps furent accomplis, il a mis à exécution son projet. Et le signe de sa présence au milieu de son peuple n'a pas été un lieu, Jérusalem, ou une construction de bois doré et de pierre, le temple, mais un homme, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, et puis à sa suite, tous ceux qui ont été greffés sur lui par le baptême, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Nous sommes ajoutés à l'Église, ajoutés au corps de Jésus-Christ à travers le baptême. Et plusieurs scènes de l'Évangile expriment cette chose mystérieuse. C'est Jésus tout petit dans le temple. C'est la déchirure du voile à la mort du Christ. C'est l'épisode du coup de lance du soldat dans le flanc de Jésus et où coule quoi? De l'eau et du sang. Le chapitre 47 d'Ézéchiel nous parle de cette eau qui coule sur le côté du temple, à l'est du temple, et qui va se répandre tout doucement vers le Jourdain, vers la mer morte, et faire revivre cette mer morte. Bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Puis sans parler de cet épisode de Jésus au temple, les quatre évangiles en parlent, où il chasse les marchands du temple. On va le voir après. Ou la lettre aux Hébreux qui ne parle que de ça, de Jésus-Christ et sa place depuis toujours dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Mais une fois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et donc devenu invisible aux yeux des hommes, pour nous, où est-ce qu'il est le signe de la présence de Dieu? Il y a une dame qui est allée un jour acheter une armoire à Ikea. Il faut vraiment bien suivre la notice, parce que si vous ne suivez pas la notice en vous disant « je connais », vous vous plantez à tous les coups. Donc, si vous achetez une armoire Ikea, suivez bien la notice, c'est très très bien fait, généralement. Mais bon, cette dame va acheter cette armoire à Ikea en kit. Et puis, il se trouve que sa maison est juste à côté de la station de bus. Donc, elle sort cette armoire du bus, elle la rentre chez elle. Et puis, elle commence à construire son armoire. Et puis, il y a un bus. À chaque fois qu'il y a un bus qui passe, qui est un peu bondé, il y a toute la maison qui tremble. Et puis, l'armoire se met à trembler et bloum, elle tombe. Alors, elle se dit, mince, c'est pas possible, j'ai dû faire une erreur. Donc, elle reprend les plans, se remet à construire cette armoire. Elle finit par reconstruire l'armoire. Et puis, il y a un bus qui passe de nouveau, la maison tremble et bloum, l'armoire, elle tombe. Alors, elle en a marre et puis elle appelle le service après-vente et qui répond, Madame, nous vous envoyons un technicien tout de suite. Donc, une heure plus tard, il y a un jeune homme de belle allure qui arrive chez elle et qui se présente et puis qui remonte l'armoire sous l'œil attentif de cette dame. Et puis, un bus passe, la maison tremble et puis l'armoire tombe de nouveau. La femme est un peu rassurée quand même. Le technicien, lui, par contre, il est piqué au vif. Et puis, il se décide à remonter l'armoire. Et il remonte l'armoire. Et puis, il va se mettre dans l'armoire. Il ferme la porte pour regarder, en attendant que le bus arrive, pour que quand ça va trembler, il va voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur qui fait que l'armoire ne tienne pas. Et puis voilà que son mari rentre du travail. Quelle belle armoire tu as achetée, chérie! Et il s'avance, ouvre la porte, et puis là, il voit, que faites-vous là? Et puis le technicien est un peu désemparé, il s'écrie à la fois un peu coincé quoi, dans son armoire, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'attends l'autobus. Alors, c'est une petite histoire rigolote, mais il y a des évidences qui sont difficiles à croire. D'accord? Ça doit se passer autrement, quoi. Quel est le signe de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous, aujourd'hui? Et ces évidences... Eh bien, ces évidences de la présence de Jésus-Christ dans le peuple d'Israël, eh bien, certains juifs ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils n'ont pas reconnu sa présence dans la personne, la présence de Dieu au milieu d'eux, dans la personne de Jésus-Christ. Où est donc le signe de la présence de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Et Paul répond dans notre texte qu'on a lu aujourd'hui, dans les textes de ce jour, en vous, mes frères, en vous. Verset 16, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand il dit ça, il dit vous individuellement, mais vous collectivement aussi. Car le texte que nous venons d'entendre doit être compris de deux manières, de ces deux manières, à deux niveaux. Au niveau personnel et au niveau de l'Église. Alors, au niveau de l'Église, d'abord, Paul développe ce thème dans la lettre aux Éphésiens. Il dit en Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 22, 20 à 22, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Alors si la communauté chrétienne est le nouveau temple de Dieu, on voit l'importance de la qualité de vie qu'on doit avoir ensemble. Parce que c'est l'image de Jésus-Christ dans ce monde. Alors elle peut être parfois pour ses contemporains de l'Église un obstacle à la manifestation de Dieu, comme elle peut être aussi le signe que Dieu attend. Et c'est pour ça que Paul met en garde l'Église de son époque, mais il nous met en garde aujourd'hui aussi, que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Parce que nous sommes tous des bâtisseurs. Bien sûr, c'est Dieu qui bâtit en nous. Mais nous sommes, comme on l'a lu, nous participons à cette action. Quand on le lit dans Corinthiens, nous sommes acteurs dans cette action. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, vous-même, c'est Pierre qui dit, Paul qui dit ça aussi en 1 Corinthiens, que chaque prince prennent garde de la façon dont il construit. Un peu plus loin, dans la même lettre, Paul précise quel doit être le critère de toutes nos actions. Et il dit, parmi vous, que tout se fasse pour l'édification commune. Tout. Pour l'édification, pas pour ma propre personne, mais pour l'édification commune. Et 1 Corinthiens 14, 26, ce n'est pas seulement les propos de Paul, mais Pierre aussi, il va dire la même chose, vous-même, comme des pierres vivantes entrées dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes, frères et sœurs, le temple de Dieu. Alors le temple de Dieu, ce n'est pas un édifice immobile. Et même si c'est la plus belle des cathédrales, que Dieu construit avec nous, c'est un temple qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle construction, en perpétuel agrandissement, en perpétuelle modification. Parce que l'Église, elle grandit, l'Église, elle bouge. C'est ça, c'est un temple qui se déplace. Et au niveau personnel, de la même manière, chacun de nous, de façon inouïe, comme cet homme qui doit comprendre que cet homme qui est là dans cette armoire, c'est vraiment le réparateur, d'accord ? Le technicien qui est venu réparer l'armoire, c'est pas un imposteur, c'est pas l'amant de sa femme, mais c'est bien ce qu'il dit, la vérité. Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Et Paul ajoute un peu plus loin, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est sacré. Ce temple, c'est vous. Alors il est intéressant de remarquer que en fait, ces textes sont extraordinaires. On a du mal à les assimiler dans la vie de tous les jours, comme disait Anderson le dimanche. Ça va, on est tous ensemble, on arrive à l'entendre, mais le lundi, le mardi et les autres jours de la semaine, c'est parfois pas facile. Mais Paul, Pierre nous rappelle ces choses, ils les écrivent pour nous. Et à chaque fois que vous regardez ces textes, vous pouvez les regarder, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5, on va juste lire ça parce qu'on a lu ce passage, il le dit dans un contexte de critique. Il ne dit pas « vous êtes super et tout ça, vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, hein, vous agissez super bien, je suis fier de vous ». Non, il dit « il y a plein de discordes parmi vous, c'est un peu le chantier dans votre assemblée là, hein. Il y en a Bien, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ quand même. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le même contexte. Dans Pierre, c'est le même contexte. Toujours, il rappelle la méchanceté de l'homme. Toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, nous dit Pierre. Et j'ai résumé ces choses par un mot qui me travaille en ce moment, c'est la cupidité. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, la cupidité, c'est écrit comme ça, un désir violent et immodéré de jouir de quelque chose, de posséder quelque chose, l'honneur, le pouvoir, l'argent, cupidité amoureuse, sensuelle. Alors on peut l'appeler, il dit aussi les synonymes, c'est convoitise, avidité, rapacité, vénalité, ambition. Moi, ça m'habite. Je regarde parfois, enfin, souvent le fond de mon cœur, et plus en ce moment, et je vois des choses que je n'aime pas. Et je vous invite à regarder au fond de vos cœurs, pas trop longtemps, hein, et au fond de vos pensées, juste de quoi dire, oh, moi aussi, moi aussi. Et si vous êtes honnête, vous verrez aussi des choses. Parce que même l'apôtre Paul, quand il regarde au fond de son cœur, lui aussi, il voit des choses qu'il n'aime pas dans sa vie. Des choses avec lesquelles il doit se battre, des choses qui l'empêchent de voir la réalité de Dieu en lui. Romains chapitre 7, verset 15, juste, c'est un long passage, mais je ne vais pas vous lire tout le passage, mais juste quelques versets. Car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et il dit au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oh, c'est un peu désespérant. Vous savez, mais toute la nature est comme ça. Le lion est un animal vaniteux. Un jour, il se promène dans la savane et puis il aile l'antilope là qui est là et il dit, et toi l'antilope? C'est qui le roi de la savane? L'antilope est un peu craintive. Oh, elle dit, non, c'est toi le lion, le roi de la savane. Alors le lion se rengorge et puis le bouffit ça, et puis il voit la girafe, et toi là-haut, la girafe, c'est qui le roi de la savane? Et la girafe, elle dit, un peu craintive, c'est toi le lion, le roi de la savane. À tel point qu'en passant devant l'éléphant, le lion lui dit, et toi, gros patapouf, c'est qui le roi de la savane? L'éléphant l'attrape par la queue, avec sa trompe, il le fait tourner au-dessus de sa tête et il l'envoie à 30 mètres dans la boue. Et puis le lion, il se réveille un peu groggy de cette expérience, il se redresse, puis il regarde le pachyderme et il dit, bah, et quoi, on n'a pas le droit de se renseigner? Si vous vous sentez le roi de la savane, je vous souhaite de rencontrer un éléphant. Si je vous dis ça, c'est parce que il faut absolument qu'on se débarrasse de cette cupidité qui est en nous. C'est un travail quotidien, pluricotidien. Il faut la discerner à chaque moment où elle est là et puis s'en débarrasser. Alors, tu dis, c'est facile, Pierre. Moi, j'ai bien essayé de m'en débarrasser. Moi aussi, j'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai essayé de m'en débarrasser. Et c'est la signification lorsque Jésus chasse les marchands du temple. Dans les quatre évangiles, on en parle. Jésus chasse les marchands du temple. Alors, j'essaie tous les jours et je m'applique à essayer de lutter contre la cupidité qui est en moi, encore plus ces derniers temps. Et cela ne marche pas. Il y a Alphonse Allais, un écrivain qui disait justement, il dit, appuyez-vous fortement sur les principes, ils finissent par céder. Ah oui. Ouais. Je me suis imposé des règles dans la vie, une morale. Je m'appuie sur la morale et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors comment on fait le ménage quotidiennement? Ben, c'est pas moi qui renverse les tables. C'est pas moi qui chasse les marchands du temple. C'est Jésus-Christ qui le fait. C'est lui seul qui est capable de faire ça. Alors bien sûr, on peut s'aider avec des principes. Ça aide. Mais c'est Jésus-Christ qui fait le travail. C'est lui qui est le seul capable de nous rendre à son image et pas la loi et la morale et les principes. Et il faut se laisser faire par Jésus. Alors j'ai prié dernièrement pour une lutte que j'avais et j'ai dit Seigneur. Et je peux vous assurer que instantanément, le Seigneur m'a délivré. Bon. Quelques temps plus tard, j'ai fait la même prière. Aide-moi, aide-moi. Et la lutte était toujours là. Comme si le Seigneur, il disait, bon, il dit, tu vois que ça marche. Une fois, maintenant, vas-y, avance, avance. Fais confiance. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut faire confiance au Seigneur. Le laisser agir dans sa vie. Prier, lisez la parole, si vous voulez que ça change. Alors, parfois, le Seigneur utilise le fouet. Quand on se laisse faire par lui. Un fouet qu'il a tressé pour chasser les marchands du temple de nos vies. Et puis renverser les tables des illusions de ce monde qu'on a mis là devant nous et qui nous empêche de voir la réalité de Dieu en nous. Et il arrive que parfois ce temple, eh bien on le voit comme détruit. Il n'y a plus pierre sur pierre. Parce que c'est Jésus qui le détruit à ce moment-là. Et il dit qu'il le rebâtira en 3 jours. Alors peut-être que vous regardez votre vie comme aussi, même où vous regardez l'Église. Et parfois l'Église, elle peut, en regardant l'Église avec un grand E, être un découragement. Mais soyez certains que Jésus-Christ est à l'œuvre. Parce que même à Jérusalem, quand Jésus chasse les marchands du temple et que ce temple est complètement corrompu par l'argent, Jésus l'appelle quand même la maison de son Père. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation du Seigneur. Si vous lui avez donné sa vie, il a fait de vous sa maison. C'est lui qui bâtit avec nous l'édifice de ce temple du Saint-Esprit à travers l'Église et dans nos vies personnelles. Mais sachons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et l'Esprit de Dieu agir dans l'Église, même si cela est parfois douloureux, afin que Jésus puisse manifester sa présence et que le monde voit la présence de Dieu dans ce monde, en chair, à travers l'Église. À travers vos vies. Je vais juste finir avec ce passage que je lis presque dans toutes les conclusions en ce moment, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et juste avant, il dit, et nous le sommes vraiment, au verset 1, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et comme cette femme qui a vu cet arbre sans feuilles, et cet homme qui lui a dit, ben, le printemps arrive, les feuilles vont repousser sur vos arbres. Ne vous inquiétez pas, ce C'est la nature. Je peux vous dire que si c'est le désert dans vos existences, laissez-vous faire par Jésus-Christ. Laissez-vous faire. Parce qu'il va arroser votre jardin, tout va repousser. Si vous laissez faire par Jésus-Christ. Même si vous pensez que tout est détruit, le Seigneur va tout reconstruire. Ça, c'est la réalité. Quiconque a cette espérance se purifie. Le Seigneur va revenir, frères et sœurs. Il va revenir dans nos vies et il va revenir pour que tout œil le voie. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'espérance que tu nous donnes et que cette espérance nous habite, Seigneur, et nous transforme. Nous désirons tous ici présents ta présence, c'est celle-là que nous sommes venus chercher. Et Seigneur, tu nous manques parfois. Plutôt nous qui te manquons la plupart du temps. Seigneur, je te prie de nous aider à avancer avec toi dans la prière, dans la parole, dans l'amour fraternel, pour que nous puissions manifester ta présence dans ce monde, ta présence dans cette salle ici, ta présence dans ce quartier, ta présence dans nos familles, ta présence au travail, à l'école. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.